Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Quelles sont les habitudes d'un leader efficace? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Vous savez, tout bon leader est appelé à développer des habitudes qui vont l'aider à mieux gérer ceux qui sont sous sa direction. D'après les experts, il est important de s'équiper des bonnes habitudes dès les départs, car diriger des personnes, les influencer est vraiment une tâche ardue. Alors, quelles sont les habitudes que tout leader efficace doit développer dans son domaine? On en parle aujourd'hui dans Capi Service avec le pasteur Camille Toto, conférencier, coach en leadership et développement personnel. Il est responsable de l'ONG Un Jour Nouveau basé à Goma dans la province du Nord Kivu. Pasteur Camille Toto, la première question de savoir, d'abord, il est important de rappeler qui est un leader.
Merci pour la question, Monsieur Jody. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio Capi et je profite pour répondre à cette question qui constitue évidemment une préoccupation dans la tête et le cœur de beaucoup de gens, de savoir que le leader est différent du leadership. Le leader est la personne qui exerce la fonction de leadership et on la définit comme quelqu'un qui a la capacité d'influencer d'autres personnes en vue d'atteindre des objectifs précis. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine intégrité, une vision, qu'il communique à d'autres personnes, qui emballe ces personnes à épouser cette vision et à marcher avec lui vers l'atteinte de ces objectifs qu'il a fixés.
Voilà, c'est là un leader. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on a des leaders dans tous les domaines de la vie?
Absolument, dans tous les domaines de la vie. C'est ainsi que lorsqu'on parle du leadership, beaucoup de gens concentrent ce leadership au leadership politique. Ce n'est pas seulement sur le point de vue politique, mais sur le point de vue social, ecclésiastique, scolaire, économique. Vous avez des personnes qui sont des leaders d'entreprise, des leaders d'église, des leaders de petits groupes, de groupes sociaux, etc. Et dans tous ces domaines, quelqu'un peut se distinguer dans sa capacité d'influencer d'autres personnes et à améliorer les conditions ou l'état des choses autour de lui. Donc absolument dans tous les domaines.
Voilà, alors nous avons des leaders dans tous les domaines, ce n'est pas seulement en politique comme bon nombre de personnes le pensent. Alors dites-nous, pasteur Camille Toto, quelles sont alors les habitudes d'un bon leader?
Eh bien, je dirais d'abord que le leadership, contrairement à ce qu'on a entendu souvent comme définition, ne se limite pas simplement à avoir une position, un titre, un mandat ou simplement à un poste quelconque, à un endroit précis. Mais il comporte le fait de se distinguer par la personne que vous êtes. Alors, comment vous formez une habitude? Vous formez une habitude par le vouloir, le savoir et le pouvoir. En d'autres termes, c'est à l'intersection du vouloir, c'est-à-dire vous voulez effectivement vous distinguer et être en mesure d'apporter des changements positifs dans la société. Le savoir, c'est que vous avez la capacité de le faire. Et le pouvoir, c'est que vous vous trouvez dans une position telle que l'environnement vous permet de l'accomplir. Alors, ces habitudes que vous formez, eh bien, je vais parler de sept habitudes. La première, c'est d'être proactif. En fait, c'est l'habitude de la responsabilité, du choix, de l'initiative et de l'imputabilité. À ce niveau, quelqu'un regarde les choses qui sont, et plutôt que de se poser la question de savoir pourquoi les choses sont dans cet état, il regarde ce qui n'est pas et il se dit « mais pourquoi pas ?». C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a une condition des choses sur le point de vue social qui se détériore et il dit ben, « moi je suis là pour justement l'améliorer et amener entre guillemets à l'existence ce qui n'est pas ».
Un exemple précis de la vie quotidienne.
Un exemple, Ben, quelqu'un pourrait observer, par exemple, l'état d'insalubrité dans la ville de Kinshasa, par exemple, les détritus, les déchets, tout ce qui est en train d'être amassé, que ce soit dans les boulevards, dans les rues, dans les caniveaux et autres. Et plutôt que de se ranger du côté de ceux qui se plaignent de cet état de choses, il commence à réfléchir sur comment nous pouvons améliorer cette situation. Et peut-être il va penser à une entreprise de recyclage, il va penser à une compagnie de nettoyage, il va réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons emballer la population à développer des notion de propreté, afin que cette situation puisse prendre fin. C'est ça le leader, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est proactif et qui influence son environnement. Et il fait la distinction entre ce qui est de sa capacité d'influencer, plutôt que ce qui est de sa capacité ou de son pouvoir à être simplement victime de l'environnement ou de ce qui se passe autour de lui. La deuxième habitude, je dirais que c'est de savoir dès le départ où vous voulez aller. C'est pour ça que l'une des choses qui distingue le leader du suiveur, c'est qu'il a une vision, il a une mission, il a un engagement et il a un but. Et la mission pour le leader, c'est comme une constitution écrite, selon laquelle il prend toutes les décisions de sa vie. Dans le cas que j'ai cité précédemment, pour la personne qui se dit ben, « je vais contribuer à l'amélioration de l'environnement de la ville de Kinshasa, par exemple », il dira que « bon, voilà, ma mission consiste à engager le plus grand nombre de personnes à développer des habitudes de propreté, par exemple ». C'est juste un exemple. La troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. Et ça, c'est l'habitude de la concentration. C'est l'habitude de l'intégrité, c'est l'habitude de la discipline et de la priorisation. C'est-à-dire que le leader sait qu'il y a des choses qui sont importantes et urgentes, que vous êtes obligé, évidemment, d'adresser. Il y a des choses qui ne sont pas importantes, mais qui peuvent s'avérer urgentes. Il y a des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes, et il ne va pas perdre son temps dans ce cadran des choses qui sont ni importantes ni urgentes. Mais voilà un endroit où le leader va dévouer le plus clair de son temps, c'est dans les choses qui sont importantes et pas nécessairement urgentes. C'est là qu'il développe son travail proactif. C'est là qu'il établit ses objectifs importants. C'est là qu'il développe sa pensée créative, où il se dit comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses, même en utilisant la créativité et l'innovation. C'est à cet endroit qu'il pense à construire des relations qui pourront évidemment le permettre à atteindre l'objectif qui est le sien. C'est aussi à ce niveau-là, dans cette habitude de la priorisation, où il développe la discipline. Quelqu'un dira que la discipline, c'est faire ce qu'il faut, même quand on n'a pas envie de le faire. Et quelqu'un dira, si tu souffres la douleur de la discipline, tu as le choix entre souffrir la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Donc le leader, c'est quelqu'un qui sait s'imposer un mode de vie pour lui permettre d'atteindre les objectifs qui sont individuels mais aussi collectifs. Et là, il obtient une victoire intérieure ou une victoire privée. Et je voudrais parler maintenant de trois habitudes qui constituent la victoire publique. À ce niveau-là, sachant qu'il a développé en lui-même les tendances indépendantes à pouvoir devenir la personne qu'il voudrait être, en d'autres termes, il estime que l'instrument qu'il doit d'abord améliorer, c'est sa propre personne. Le deuxième niveau, donc, des victoires publiques, c'est il réalise qu'il travaille ou il œuvre en société ou en communauté où il est obligé d'atteindre ce qu'on appelle l'interdépendance. Et là, les trois habitudes dont je vais faire mention ici, c'est l'habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. C'est l'habitude du bénéfice mutuel, de l'impartialité et aussi de l'abondance. Donc, c'est d'avoir une mentalité d'abondance.
Mais il y a certains leaders aujourd'hui, quand ils travaillent, ils voient plus son intérêt. Et vous autres, là, bon, il va juste vous utiliser. Après, c'est pour qu'il empoche tout ce qu'il y aura comme bénéfice.
C'est ça le problème. Certaines personnes qui aspirent à certains titres ou à certaines fonctions, c'est généralement dans le but de se servir, de pouvoir remplir les poches ou avoir des privilèges que les autres n'ont pas. Et je crois que c'est vraiment une hérésie, c'est un malheur, c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, quand vous aspirez à un poste de responsabilité, c'est pour vous placer en position de servir les autres. En d'autres termes, votre présence à ce poste de responsabilité devrait améliorer la condition de vie des personnes qui œuvrent en dessous de vous, ceux qui sont directement bénéficiaires, c'est-à-dire peut-être vos subalternes, vos employés, mais aussi ceux qui sont indirectement bénéficiaires parce que vous améliorez la qualité de la prestation des personnes qui œuvrent avec vous, eh bien vous améliorez effectivement l'environnement dans lequel vous êtes également. Donc, cette habitude de penser gagnant-gagnant est très importante. Mmh. Et, Monsieur Jeudy, je vais vous dire aussi que les gens qui échouent généralement, c'est parce que ce sont des personnes qui souhaitent l'échec des autres. C'est-à-dire, leur seul but, c'est pour se placer en position devant les autres, c'est d'empêcher les autres d'atteindre le niveau que eux ont atteint. Mais les gens qui réussissent ont une autre mentalité. Eux conçoivent le succès et la réussite dans la capacité d'améliorer les compétences des autres. Donc ils pensent effectivement gagnant-gagnant. L'habitude numéro 5, c'est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Et ça, c'est l'habitude du respect, l'habitude de la compréhension mutuelle, l'habitude de l'empathie, l'habitude du courage. C'est là que vous pratiquez l'écoute empathique. Vous cherchez de façon respectueuse à être compris. C'est-à-dire que là, vous réalisez que quand quelqu'un a des revendications, oui, ou des plaintes, ou des remarques, ou des critiques, ce n'est pas toujours dans le but de vous freiner. Ce n'est pas parce qu'il vous vaut du tort. Il y a des personnes qui ont des critiques constructives dans le but d'améliorer même votre prestation. Et là, le leader sait qu'il faut d'abord qu'il écoute, qu'il cherche à comprendre, avant de pouvoir exposer son point de vue et faire comprendre à la partie adverse, voilà pourquoi je suis en train de poser les actions suivantes.
Oui, pasteur Camille, avant de poursuivre, oui, et de donner d'accorder la parole aux auditeurs, on a appris que certains les leaders, oui, généralement, ils aiment bien entendre des choses qui agréables à l'oreille, hein, des choses qui font plaisir, des flatteries, mais lorsque vous dites à certains leaders les vérités en face, ça dérange.
Eh bien, c'est là que vous faites la distinction entre un leader efficace, et puis les personnes qui se sont improvisées à un poste de responsabilité ou à une fonction quelconque. Le vrai leader prendra les critiques constructives et verra quel est l'aspect qu'il peut améliorer dans sa façon d'influencer et de conduire les autres. Et plutôt que de vilipender toute personne qui ne serait pas de son opinion, eh bien, il s'entourera plutôt de personnes qui lui diront la vérité en face et avec qui il pourra avancer. Vous voyez, c'est le cas dans la Bible de Joseph, par exemple, qui parle au Pharaon et qui lui donne l'interprétation du rêve. Mais après avoir donné l'interprétation du rêve de Pharaon, eh bien, il lui donne quelques mécanismes qui pourraient éventuellement permettre à toute la nation d'Égypte, au moment de la crise, de pouvoir se retrouver dans l'abondance. Et il dit de façon précise au Pharaon, il te faut choisir quelqu'un qui aura les compétences de remplir cette fonction. Il lui dit la vérité en face. Plutôt que de pouvoir s'entourer de personnes qui vont du matin au soir chanter ses louanges, mmh, alors que la personne peut être en train de se diriger droit vers un ravin, eh bien tout le monde est en train de l'applaudir comme si de rien n'était, mmh, alors qu'en fait vous êtes en train de rendre un très mauvais service à la personne qui est considérée comme votre leader.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, ouais, le temps de donner la parole à deux auditeurs qui, d'accord, sont en ligne. Nous avons Gaston qui nous appelle de Kinshasa et Jules Kazadi de Lubumbashi. Nous parlons des habitudes d'un leader efficace. Gaston, bonjour.
Bonjour, Jeudy.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Jeudy, je pense qu'il y a un spot là qui est en train de passer où l'ONU Femme avait répertorié dans son annuaire les femmes leaders. Et je pense aussi que pareilles émissions devraient servir. Devrait servir à ceux qui vont évaluer et ceux qui vont soumettre pour déterminer qui est leader et qui ne l'est pas. Moi, je suis vraiment très content de l'intervention de l'invité, la manière dont il a expliqué les choses. Mmh. Mais je voulais que l'invité puisse m'expliquer par rapport aux exemples que je vais donner si réellement la personne répond aux critères d'être un vrai leader.
Nous parlons des habitudes, hein, des habitudes que doit développer tout bon leader.
Voilà, des habitudes. Mais dans les cas d'espèce, je donne un cas où j'ai des faits par rapport à tout ce qu'il a dit. Et
rapidement. Oui, allez-y rapidement. Rapidement, vous pouvez exposer ces faits rapidement.
Voilà. Donc, j'allais dire ceci. Il y a une maman, hein, que je connais bien, qui vit à Kinshasa ici, qui est descendue dans son village, et il avait constaté que les femmes là-bas vivent vraiment de manière médiocre. Et puis, en revenant ici, il a pris l'initiative de regrouper ceux qui sont à Kinshasa afin de temps soit fait et pallier aux souffrances qu'il avait constatées de l'autre côté-là. Donc, elle est venue, il a réuni toutes les grandes dames de sa communauté ici à Kinshasa. Et ils ont créé une structure. Moi, personnellement, je les avais aidés parce que ce sont mes mamans, je les avais aidés sur le plan juridique des choses. Donc, aujourd'hui, je vous dis, il y a une structure qui existe légalement. Hein, légalement, une agence belle qui peut, à mon avis aussi, soumettre les projets partis par là parce qu'ils existent légalement. Là aussi, elle avait aussi abordé d'autres grandes personnalités de la communauté qui ont eu aussi à soutenir plusieurs projets dans le sens de faire la promotion des cultures de cette communauté, mais aussi de soutenir les petits des mini. Il y a plusieurs actions qui sont faites que nous nous revendiquons aussi être celui qui accompagne des femmes, hein, celui qui accompagne des femmes. J'allais demander, parce qu'il a beaucoup dit les choses, est-ce qu'une telle femme pouvait aussi être considérée comme une leader? Voilà.
Voilà, merci. Donc, elle a vu la souffrance des autres femmes, elle est venue regrouper d'autres personnes pour pouvoir les aider les autres qui souffrent, c'est cela.
Il y a une association qui est créée, non seulement que l'association est créée, il y a des gens qui sont disposés à monter les projets, à les soumettre passer par là pour remédier à la situation de la communauté.
D'accord.
Et puis j'allais aussi ajouter, parce que je vois les musiciens, vous savez, les musiciens proposent, mais ils ont des masses. Les matchs derrière, mais apparemment, ils ne proposent pas grand-chose. C'est pour ça que j'allais aussi, il existe aussi des mauvais leaders.
Voilà. D'accord, merci. Question. Merci Gaston. Jules Kazadi, vous êtes à Lubumbashi, nous parlons des habitudes d'un leader efficace. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Bonjour, M. Jody, et bonjour à notre invité. Par rapport au sujet bonjour. Du jour, c'est... Un leader pour le moment dans notre pays, on parle de ce qui se passe dans notre pays, le leader est un leader efficace. D'abord, c'est l'écoute, il doit écouter les autres. Même s'il y a certaines critiques contre lui, il doit savoir gérer et savoir se comporter, échanger. Certains comportements. Parce que, avec ce que nous sommes en train de voir, nos leaders, sur, comme l'invité a dit, sur tous les plans, que ce soit sur les plans musical, vous trouverez qu'il y a des leaders, quand on lui donne seulement un conseil, mais leader, salaboy, c'est la suspension. Ils ne suivent pas les musiciens, on les voit. Donc,
quelle est la question?
Sur les plans sportifs également.
Quelle est la question, Jules?
La politique, n'en parlons même pas.
Oui. Allez, M. Jody. Oui, quelle est la question rapidement? On va prendre notre interview.
Oui. Alors, je voulais juste poser la question à notre invité. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut pour être leader? Parce que moi aussi, je cherche à être leader, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir beaucoup de moyens ou.
D'accord.
Il faut savoir parler devant
les gens, la foule. D'accord.
Donc,
on a compris.
Savoir,
merci. Merci, Jules.
Voilà, merci, M. Jody.
Bien. Bonne journée, Jules de Lubumbashi. David, vous êtes en Bujimaï. Bonjour.
Bonjour, Jody Daniel.
Nous parlons des habitudes d'un leader efficace. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Moi, j'avais juste des questions possibles. Si c'est possible, posez un peu à notre invité. Quelle différence y a-t-il entre un leader et un leadership? Parce que comme moi j'ai constaté, un leadership, donc c'est quelqu'un qui peut dominer sur un leader, donc il est plus qu'un leader. Donc, bon je vais s'arranger ces différences entre ces deux-là. Bonne journée.
Merci David, on n'a pas très bien compris votre préoccupation. Vous dites qu'un leader, c'est quelqu'un qui domine sur les gens, si j'ai bien capté l'essentiel de votre communication. Pasteur Camille, vous avez la parole.
Merci, je voudrais répondre à Monsieur Gaston à Kinshasa qui parle d'un exemple concret d'une maman qui a observé la douleur et la misère des femmes dans un milieu rural et qui a développé une initiative pour pouvoir aider ces femmes à se sortir des conditions dans lesquelles elles étaient. Je dirais ceci, retenez que le problème que tu vois peut être la mission que tu dois. Ça veut dire que cette maman a observé la condition des femmes dans ce village et a réalisé que, de un, c'était inacceptable, de deux, qu'elle pouvait éventuellement avoir les atouts nécessaires pour remédier à la situation désastreuse que traversaient ces mamans. C'est un exemple parfait de leadership. En d'autres termes, le leader est en mesure de dire, voilà, avant mon intervention, comment étaient les choses, et voilà, depuis que je me suis impliqué dans cette situation, tous les indicateurs sont au vert, les mamans ont trouvé un emploi, elles sont en mesure d'être plus constructives, elles apportent quelque chose de positif dans la société, c'est exactement ce que l'on attend d'un leader. Ce n'est pas tellement de pouvoir se vanter d'avoir un titre, une fonction quelconque, mais c'est d'être en mesure d'identifier des actions concrètes qui ont amélioré les conditions de vie de son entourage. Alors la deuxième question, c'était celle de Monsieur Jules à Kazadi à Lubumbashi, qui parle de l'importance d'écouter pour changer certains comportements et puis comment devenir leader. Comme je le disais tout à l'heure, l'habitude numéro 5 à laquelle j'ai fait allusion, c'était chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Toute personne qui n'épouse pas nécessairement votre point de vue n'est pas à considérer comme un ennemi. En fait, les grands leaders sont les personnes qui, même au milieu de toute forme d'antagonisme à leur endroit, sont en mesure d'agir toujours de façon positive. D'ailleurs, ils ne se laissent pas influencer par le type de réaction négative à son action. Je donnerai l'exemple de Jésus-Christ qui est en train de mener sa mission sur terre et qui a à faire face aux pharisiens, qui a à faire face aux scribes, qui sont complètement opposés à ce qu'il est en train de faire. Mais plutôt que de perdre son temps à vouloir les réprimer, à vouloir les vilipender ou leur causer du tort, eh bien Jésus continue son bonhomme de chemin en faisant du bien, en guérissant, en enseignant et en permettant à des personnes de découvrir leur vision et leur mission. Donc c'est ça que l'on attend d'un leader. Alors vous me posiez aussi la question, Monsieur Jules, de savoir comment le devenir.
Comment
et
devenir un leader,
vous donner quelques atouts ici. Quand je parle des habitudes qu'un leader doit développer, en fait c'est d'abord une question de caractère. C'est quel est le type de personne que tu veux devenir avant de pouvoir dire voilà le genre de choses que je suis en train de faire dans la société. Quel type de personne veux-tu devenir? C'est ça qui va te permettre de te distinguer, de te démarquer des autres personnes qui peuvent être des suiveurs plutôt que des leaders. Alors je termine avec Monsieur David Ambujimai qui lui dit la différence entre un leader et un leadership. En fait, le leader est la personne. Ça peut être un enseignant, ça peut être un professeur, un responsable d'entreprise, un pasteur, un cardinal, ça peut être n'importe qui. Alors le leadership, c'est ce que nous définissons comme l'action du leader. Vous savez que c'est un terme emprunté de l'anglais qui n'a pas une traduction directe en français. C'est pour ça que certains parlent de l'action de conduire, d'influencer, de toucher ou d'impacter. Mais en fait, ça vient du mot anglais « leadership », qui parle justement d'exercer une influence positive sur son entourage. Donc voilà, pour répondre à ces questions, je termine avec deux habitudes. L'habitude numéro 6, c'est profiter de la synergie, c'est-à-dire c'est l'habitude de la créativité, de la coopération, de la diversité et de l'humilité. Et là, je me rappelle du président Nelson Mandela, qui, dès qu'il a pris ses fonctions au moment où il est devenu président en Afrique du Sud, il y avait des personnes qui servaient dans le bureau présidentiel avec son prédécesseur, qui ont commencé de manière intéressante à faire leur bagage parce qu'ils se disaient, bon voilà, nouvelle administration, nous devons certainement céder la place. Et à lui, Nelson Mandela, de leur dire, mais si vous aimez votre pays et que vous êtes ici dans le but de servir votre nation, je ne vois pas pourquoi vous faites vos bagages, vous pouvez rester et travailler avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a développé cette habitude numéro 6 qui est profiter de la synergie, créativité, coopération et utiliser la diversité dans un esprit d'humilité. Et la dernière habitude dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'habitude numéro 7, c'est aiguiser vos facultés. C'est-à-dire c'est une habitude de renouvellement, d'amélioration continue et d'équilibre. Et là, vous touchez quatre aspects de votre vie personnelle, dans votre corps, avec des exercices, une bonne nutrition, repos, gestion du stress, dans votre cœur, dans, sur le point de vue des émotions, des sentiments, vous êtes équilibré, sur le point de vue mental, et puis sur le point de vue spirituel, voici les 7 habitudes d'un leader efficace. Voilà. Quelqu'un a fait cette déclaration, c'est Stephen Covey, et je vais m'arrêter là.
Oui.
Il dit ceci, l'investissement le plus puissant que nous pouvons faire dans la vie, c'est un investissement en nous-mêmes, c'est-à-dire devenir une meilleure version de soi-même, Monsieur Joly.
Voilà, devenir une meilleure version de soi-même. Quelles sont les habitudes d'un leader efficace? On en parle aujourd'hui avec le pasteur Camille Toto, conférencier, coach en leadership et développement personnel, responsable de l'ONG Un Jour Nouveau, basé à Goma. Nous avons en ligne Marcel Boto de Kananga. Bonjour Marcel.
Monsieur Jean-Yves, bonjour aussi à l'invité. Moi, je voulais parler parce que je vois entre l'État et les leaders, il y a la guerre. Si je dis ça, pourquoi? Vous allez voir qu'un leader a des projets sociaux, surtout pour aider la population, surtout à Kananga, je vois, il y a des avenirs où ça demande l'intervention de l'État. Mais le leader prend son argent pour qu'il puisse mettre des macadam sur place. Maintenant, l'État impose que non. Sinon, si le monsieur s'il va arranger la route, l'intérêt de la population, il va maintenant dominer comme s'il va dominer l'État. Maintenant, il prend l'argent, il donne à l'État pour arranger cette route. Vous voyez, l'État là, prend cet argent pour ne pas exécuter les projets de leader du quartier. Bon, ces choses-là, comment les leaders peuvent collaborer aussi avec l'État afin de satisfaire sa base? C'est ça la question que je voulais poser à l'invité.
Merci. Pasteur Camille Toto.
Oui, je dirais que à ce niveau, le leader doit utiliser cet atout de travailler dans un esprit d'interdépendance. Vous voyez que la deuxième série d'habitudes que j'ai citées, c'était les habitudes en fait qui vous permettent d'obtenir une victoire publique. Et c'est là qu'on pense gagnant-gagnant, chercher à écouter, à comprendre avant d'être compris. Et on parle aussi de profiter de la synergie. À ce moment-là, je dirais simplement ceci l'initiative qu'il a de pouvoir améliorer la condition des routes est une initiative noble. Alors, s'il est dans un environnement où l'autorité de l'État peut se sentir effectivement menacée par cette activité ou cette initiative, il doit voir comment est-ce qu'il peut justement composer avec ceux qui sont, par exemple, qui détiennent une parcelle de pouvoir sur l'autorisation ou non de faire le travail qu'il veut faire. Travailler avec eux, parce qu'après tout, le leader ne cherche pas nécessairement à se jeter des fleurs, à être récompensé ou à être adulé, loué. Il peut travailler avec ces personnes en disant, écoutez, moi, l'essentiel pour moi, c'est que nous ayons des routes qui en valent la peine. Donc, si vous voulez en prendre le crédit, si vous voulez que les gens puissent reconnaître comme étant responsables de cette action, pour moi, l'essentiel est que les routes soient faites. Donc, ma suggestion serait, voyez comment vous pouvez profiter de la synergie, parce qu'après tout, dans le bilan de cette autorité qui a ce pouvoir-là, eh bien, il pourra dire à un moment donné que, bon, voilà, dans mon mandat, eh bien, regardez les conditions des routes qui se sont améliorées. Et vous, en tant que leader, vous avez vu simplement une condition déplorable se transformer en une condition souhaitable.
Voilà, vous nous avez parlé de cette habitude d'un leader efficace. Nous avons un autre auditeur en ligne. Christian nous appelle des Kananga. Bonjour Christian. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets? Veuillez réduire le volume de votre radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone ou bien éloignez-vous tout simplement carrément de votre poste récepteur pour éviter ces feedbacks à l'antenne. C'est fait? Christian? Christian, vous êtes toujours en ligne? Bon, il n'entend pas bien, il va certainement nous rappeler. Alors, je reviens au premier point, à la première habitude dont vous avez fait allusion, à être proactif. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit toujours agir, prendre des initiatives au lieu de réagir?
Oui, le leader n'est pas une victime. C'est plutôt quelqu'un qui est en mesure de pouvoir insuffler un élan nouveau, un changement positif et pouvoir emballer, emporter les gens, engager les gens à pouvoir effectivement épouser la vision d'amélioration des conditions qui est la sienne. Et on parle souvent de deux cercles. Il y a le cercle d'influence et puis il y a le cercle des préoccupations. Le cercle de préoccupations, c'est toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, je n'ai aucun contrôle sur le climat. Je n'ai aucun contrôle sur le fait qu'il puisse pleuvoir. Je n'ai aucun contrôle sur le fait que quelqu'un puisse me haïr ou véhiculer des mensonges sur ma personne. Mais par contre, le cercle d'influence, ce que moi je peux faire, c'est que peu importe s'il pleut ou pas, ben je peux prendre un parapluie et me rendre au service. Il y a dans les pays que j'ai vus, les pays industrialisés, où les conditions climatiques n'empêchent pas les gens de se rendre au travail. Mmh. Mais j'ai par contre constaté que dans beaucoup de pays en voie de développement, eh bien, la pluie est synonyme de congé. C'est juste un exemple. Le cercle d'influence, encore une fois, les gens peuvent dire tout un tas de mensonges sur ma personne, mais c'est à moi de confirmer ou d'infirmer par mes actes. Je ne vais pas commencer à les insulter en retour, mais au contraire, je vais continuer à poser des actes qui vont améliorer les conditions de vie dans mon entourage. Je peux me plaindre, par exemple, de la condition de l'enseignement ou de l'éducation dans un milieu, dans un pays ou dans une province, et là, c'est me ranger du côté des victimes, mais par contre, je peux me dire, je vais contribuer à l'amélioration de l'enseignement dans cette province. Je commence une petite classe, je commence une petite école, j'obtiens tous les documents nécessaires, je me rassure que la qualité de l'enseignement est souhaitable, je cherche des instructeurs et des enseignants qui ont une bonne formation, et je me rassure que les enfants sont suivis et qu'au moment où ils terminent leur formation, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent se défendre dans tous les domaines de la vie sociale. Alors, c'est ça la proactivité, c'est d'être en mesure d'identifier, d'observer et de se dire, je peux apporter quelque chose de positif et c'est ma responsabilité d'apporter quelque chose de positif.
Voilà, mais nous savons qu'il y a des gens qui ont peut-être des très bonnes idées, qui veulent agir, faire changer les choses, mais ils sont butés à quelques difficultés. Ils voient l'environnement, par exemple. Ils veulent lancer son business. Ils voient les taxes, tout ça, les services, les tracasseries à gauche, à droite. Et certaines personnes se découragent carrément.
Oui, c'est vrai. Il est tout à fait normal qu'à certains moments, on puisse se décourager et que vu certaines situations, dans certaines circonstances, tout semble militer contre vous, mais c'est encore ce qui fait la différence entre un leader et un suiveur. Le leader ne baisse pas les bras face aux difficultés ou aux situations adverses. Et c'est ainsi qu'on dit par exemple qu'un gagneur ne lâche jamais, mais un lâcheur ne gagne jamais. Donc, un gagneur ne lâche jamais, mais un lâcheur ne gagne jamais. Et le leader est en mesure de trouver des solutions innovantes, des solutions créatives, des solutions auxquelles personne n'avait pensé auparavant, qui peuvent lui permettre, toujours en restant dans l'intégrité, bien évidemment, de pouvoir surmonter les obstacles auxquels il fait face. Et c'est vrai que beaucoup de gens peuvent apporter beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait, mais le leader est celui qui apporte les raisons de continuer et persévérer et d'être en mesure d'appliquer un changement ou d'influer sur la société dans laquelle il est en train d'œuvrer. Mmh. Peu importe les circonstances adverses auxquelles il fait face.
Voilà, et vous avez dit également qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait définir les priorités. Il sait quelles sont les priorités, quelles sont les urgences. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de la vie de tous les jours, nous montrer quelles sont les choses pour lesquelles qui sont prioritaires, et lesquelles sont urgentes et lesquelles on peut s'en occuper plus tard.
D'accord, je donne un exemple des choses qui pourraient éventuellement être importantes et urgentes. Ça, c'est le cadran de la nécessité. Une crise peut être quelque chose d'important et urgent. Une réunion d'urgence, des échéances de dernière minute, un problème pressant ou des événements imprévus peut entrer dans le cadran de la nécessité de choses qui sont importantes et urgentes. Regardez le cadran numéro 3, par exemple, c'est le cadran de la distraction. Ce sont des choses qui ne sont ni importantes, qui ne sont pas importantes, mais qui peuvent s'avérer être urgentes. Par exemple, des interruptions inutiles. Il y a des gens qui n'ont rien à faire et vont vous rendre visite au bureau. Eh bien, ils vont vous bouffer tout le temps, alors que vous avez des choses à réaliser. Mais parce qu'ils n'ont rien de spécial à faire, eh bien, ils vous prendront tout votre temps. Des rapports inutiles, des réunions sans but, des petits problèmes des autres, des emails, des tâches, des appels téléphoniques. Je suis souvent
impressionné
par la dépendance.
Oui.
La dépendance que beaucoup de gens ont au téléphone portable maintenant. Mmh. Il y a des gens qui peuvent se lever en plein milieu d'un culte ou d'une conférence, sortir pour aller prendre un appel qui peut s'avérer un appel tout à fait anodin et inutile. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut éliminer quand vous êtes leader, parce que vous avez une vision et une mission. Et la chose la plus importante pour vous, c'est votre temps. Le temps est une denrée rare et non renouvelable.
C'est-à-dire que quand vous donnez votre temps à quelqu'un, c'est que vous lui avez fait don de quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer, qui est passé pour l'éternité. Mmh. Et donc, pour le leader, l'utilisation, la gestion du temps est d'une importance capitale. Alors, je donne aussi un exemple des choses qui sont ni importantes ni urgentes.
Oui.
Un travail insignifiant, des activités d'évasion, répondre à des critiques inutilement, chercher à pouvoir éliminer toute personne qui est contraire à votre point de vue. La perte de temps, le commérage et les calomnies sont des choses dans lesquelles le leader ne perd pas son temps. Mais voilà, par exemple, les choses pour lesquelles le leader consacre son attention, la construction des relations qui en vaillent la peine, l'apprentissage de nouveaux atouts, la lecture. Un bon leader est un bon lecteur, donc il faut développer la culture de l'écriture et de la lecture, la planification et la prévention. Nous sommes au début de l'année. La question que je voudrais poser à tous ceux qui se disent leaders, avez-vous un plan pour la manière dont vous allez conduire votre entité, votre église, votre société? Comment est-ce que vous allez conduire votre petit groupe pendant toute l'année? J'ai passé un temps avec certains leaders dans notre organisation à planifier sur le point de vue trimestriel ce que nous allions faire, sur le point de vue mensuel ce que l'on allait faire, sur le point de vue hebdomadaire, et cela va se résumer à un plan d'action journalier et quotidien que nous allons développer. Et ça, c'est le genre de choses dans lesquelles le leader doit consacrer son temps, son attention et son énergie.
Voilà, nous avons en ligne David de Mbujimaï. Bonjour David.
Ah, bonjour Daniel, on met une petite, il s'est passé pas une petite communication, je sais pas. Je voulais encore intervenir. L'invité m'a déjà répondu en ce qui concerne un leader et un leadership. Là, j'avais encore des problèmes un peu sur un investisseur. Parce que, notre ami de Kalanga a parlé de un investisseur comme bon cas, il voulait investir dans son pays, l'État, dans sa province, plutôt dans sa ville, dans sa commune ou, maintenant, l'État a intervenu, maintenant, il voulait donc, l'État a pris ça comme si c'était lui qui voulait prendre la place de l'État. Maintenant, je voulais savoir, maintenant, un investisseur, maintenant, parce que c'est quelqu'un qui engage son capital un peu à acheter des matériaux pour la population parfois. Mais alors, cet investisseur-là, comment est-ce qu'il peut devenir leader pour en ne pas avoir de problème avec l'État comme ça, des gestions comme ça?
Voilà, comment est-ce qu'un investisseur peut devenir leader et ne pas avoir des problèmes, des soucis avec l'État? Pasteur Kamita.
Voilà, monsieur David, comme je le disais tout à l'heure, il doit développer ses habitudes ou ses aptitudes de la coopération, de la collaboration et du travail en synergie. C'est un investisseur, il a les moyens de pouvoir améliorer certaines conditions, il a la possibilité de le faire, mais plutôt que d'estimer qu'il va peut-être s'attribuer la gloire du travail fait, eh bien il peut associer la personne qui pourrait se sentir menacée par son travail. Et si dans ce cas-là, c'est une autorité de l'État, eh bien rien ne l'empêche de l'approcher et de dire, écoutez, voilà, notre population est dans ces conditions difficiles, comment est-ce que nous pouvons améliorer l'état de vie ou les conditions de vie dans laquelle ils sont, et puis si vous voulez prendre ça dans votre actif, eh bien, vous êtes libre de le faire, puisqu'après tout, pour le leader, son but et son objectif est l'amélioration des conditions de vie des personnes qui l'entourent, qu'il dirige ou sur lesquelles il a une influence, un impact. À partir du moment où le leader ne cherche que la gloire d'une action, ou voudrait simplement être reconnu comme étant celui qui a mis les moyens pour que quelque chose puisse se produire, eh bien, les motivations de son leadership sont à remettre en question. Les motivations de son leadership sont à remettre en question. C'est pour ça qu'on parle dans certains domaines, par exemple, d'un leadership opprimant et d'un leadership cohérent. La différence, par exemple, pour un leadership opprimant, c'est qu'il repose sur des systèmes de contrôle venus de l'extérieur. Et ça utilise des restrictions, des règles, des règlements pour un dictat et pour imposer sa volonté. Mais par contre, un leadership cohérent se concentre sur l'influence venant de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il motive les gens, il les encourage, il leur permet d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Et vous voyez ça, dans cette différence, pour l'investisseur par exemple, eh bien il va faire en sorte que, voilà, en approchant cette personne qui pourrait se sentir menacée par son travail, il lui expose un plan
d'une infrastructure améliorée pour laquelle, eh bien, l'autorité de l'État, dans ce cas-là, qu'il a donné, pourra évidemment se vanter que voilà, ça fait partie de mon actif.
Voilà, revenons ensuite sur ce que vous avez dit, une autre habitude. Penser un leader, c'est quelqu'un qui pense gagnant-gagnant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à cela, gagnant-gagnant, et puis comment cela se concrétise dans la vie de tous les jours?
Eh bien, le leader qui pense gagnant-gagnant, c'est celui qui pense aux bénéfices mutuels. Et il a un esprit qui lui permet de comprendre que nous ne sommes pas dans une situation de carence. À partir du moment où un leader estime que sa victoire équivaut à l'échec de ses adversaires, c'est un leader qui a une vision faible et une vision qui peut être remise en question. Quand il pense gagnant-gagnant, c'est quelqu'un qui se met sur une table de négociation et qui dit, écoutez, nous avons la vision de pouvoir faire en sorte que, par exemple, le marché soit un endroit propre, où il n'y a pas de déchets, comment est-ce que nous pouvons arriver à le faire? Alors, peut-être les personnes qui sont en train d'exposer leurs articles dans le marché diront, mais nous refusons de payer toutes les taxes, parce que cela pourrait nous étouffer. Le leader est en mesure de s'asseoir et simplement dire, écoutez, votre victoire, c'est quoi? La victoire pour vous, c'est d'être en mesure de réaliser un profit. Très bien. La victoire pour moi, c'est de garantir un environnement qui en vaille la peine. Mmh. Comment est-ce que nous pouvons trouver un juste milieu qui pourrait effectivement nous permettre tous les deux d'atteindre notre objectif ou l'objectif souhaité. Donc, le leader ne cherche pas à écraser les personnes qui peuvent se trouver de l'autre côté de ses points de vue et de ses objectifs, mais plutôt à faire en sorte que tous se retrouvent à un point où ils disent, voilà, un accord a été trouvé et nous sommes contents, nous sommes en train d'œuvrer chacun pour la réalisation de la vision qui est la nôtre, sans nécessairement empiéter sur celle de la personne qui n'épouse pas notre point de vue.
Voilà, c'est ça, penser gagnant-gagnant. Et vous avez dit, le leader cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Alors, toutes ces habitudes, Pasteur Camille, comment les développer? Parce que on dit que ce sont là les habitudes que tout leader efficace doit avoir, mais comment arriver à les développer?
Il faut le faire de manière consciente, je veux dire. En fait, il faut être en mesure de se dire, ok, voilà le type de personne que je veux devenir ou que j'aspire à devenir en tant que leader, et comment est-ce que chaque jour je peux me concentrer sur quelque chose qui va effectivement m'amener le plus rapidement possible vers l'objectif que je suis en train de vouloir atteindre en ce moment. Et la seule manière de le faire, c'est de passer à l'action. Vous ne pouvez pas être leader rêveur, c'est-à-dire vous avez un rêve qui n'a absolument aucun plan d'action. Non, vous faites le rêve, vous attribuez un plan d'action et cela devient une réalisation. C'est-à-dire que de manière journalière, comme la dame dont on a donné l'exemple qui a amélioré la condition de vie des femmes dans le milieu rural, c'est qu'elle a observé qu'il y avait effectivement un problème. La question est de savoir, quel est le problème que tu es venu résoudre sur Terre? Chacun d'entre nous doit se considérer comme étant une solution. Et c'est pour ça que le leader est une solution. Chacun d'entre nous doit être en mesure de se considérer comme la clé. La question est de savoir, quelle est la porte que tu es venu ouvrir sur cette Terre? Ou quel est le problème pour lequel tu es la solution? Et c'est au fur et à mesure que vous cherchez le bien-être, le bénéfice, l'amélioration des autres, que vous commencez à développer ces habitudes qui sont en vous, de la proactivité, où chaque jour vous faites un plan d'action, de savoir où vous allez, où chaque jour vous revoyez votre vision et votre mission, des priorités, de savoir les choses que vous allez mettre de côté, pour lesquelles vous n'allez consacrer aucune attention, aucune énergie, et puis, sur le point de vue des victoires publiques, comment vous allez travailler gagnant-gagnant avec les autres, penser à comprendre leur point de vue avant de chercher à être compris, et travailler en synergie. Et c'est de manière journalière que vous le faites, Monsieur Jody, et que vous continuez à vous améliorer et à vous distinguer et à accroître le niveau de votre impact dans le milieu dans lequel vous êtes. Donc c'est un travail de longue haleine, oui. C'est une responsabilité quotidienne et journalière.
Mais j'imagine que seul dans son coin, il sera difficile à un leader de développer ses habitudes. Il aura peut-être besoin de s'entourer des personnes qui vont l'aider à développer rapidement ses habitudes au quotidien.
Absolument, seul dans son coin, il ne peut pas le faire. Donc on ne peut pas concevoir un leader qui est en complet déphasage avec ce qui se passe dans son entourage ou qui pense qu'il peut tout résoudre seul. Quelqu'un a dit, et je crois que c'était un proverbe africain, que si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, fais-toi accompagner. Donc en d'autres termes, après avoir épousé cette vision et comprendre la mission qui est la sienne, eh bien il commence à communiquer aux personnes qui l'entourent, des personnes de confiance généralement, des personnes qui ont les aptitudes et les capacités de l'aider, il s'entoure de ces personnes-là pour atteindre cette vision. Et la responsabilité du leader sera que les personnes avec qui il travaille deviennent effectivement beaucoup plus compétentes même dans le domaine dans lequel ils sont en train de travailler. C'est pour ça que le leader n'a jamais peur de se faire entourer de gens qui sont peut-être plus intelligents, plus doués, plus capables et plus aguerris que lui. Au contraire, il va chercher des personnes qui sont expertes dans le domaine dans lequel il travaille, de sorte à lui prodiguer les meilleurs conseils possibles. Et quand il a identifié ces personnes, eh bien, plutôt que de les opprimer, plutôt que de leur causer du tort, plutôt que de leur faire des crocs en jambes, de les dominer ou d'exercer un dictat sur eux, eh bien, il va composer avec eux. Il va être en mesure de les orienter et de leur rappeler la vision qui les réunit, qui les met ensemble, et permettre à ces personnes effectivement de se retrouver dans un état où ils considèrent que leur apport est non seulement valable, mais est aussi apprécié par le leader avec lequel nous travaillons. Et tout ça, c'est vraiment très important.
On va accueillir Christian de Kananga. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Dodi, bonjour aussi à l'invité.
Nous parlons des habitudes d'un leader efficace. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces thèmes?
Oui, je dis, moi j'avais une question à poser à notre invité. Parce que à lui entendre à parler, apparemment le leader c'est quelqu'un qui est d'abord compétent. À partir de ses compétences, il est encore ouvert. Et puis c'est quelqu'un qui doit servir et non se servir. Dans tout ce que le leader fait, qu'est-ce qu'il doit gagner? Il doit bénéficier quoi? C'est ça ma question à l'invité.
Voilà, qu'est-ce que le leader va gagner, pasteur Camille?
Ben, je crois que d'abord, le leader gagne la satisfaction d'avoir fait quelque chose de positif. Et ça, Martin Luther King Jr. l'a dit, que la plus grande contribution que nous avons, c'est d'être en mesure de rendre la vie de quelqu'un d'autre meilleure. Ça, c'est la première satisfaction qu'il a. C'est qu'il a été en mesure d'apporter quelque chose de positif dans l'entourage, dans l'environnement dans lequel il est. Mais quand vous posez la question, je sais très bien, Monsieur Christian, que vous voulez savoir, est-ce que le leader peut effectivement songer à une rémunération, à une récompense, ou à ce que beaucoup de gens ont appelé une motivation? Généralement, quand on parle de motivation, ici, on ne parle que d'une motivation financière. Eh bien, je dirais ceci. Comme certaines écritures le disent, donnez et il vous sera donné. Il n'est personne qui contribue à l'avancement et à l'amélioration de quelque chose qui va rester bredouille. Si sa première préoccupation, c'est effectivement de faire un profit ou de prendre l'avantage des autres, de les rouler, de les corrompre, nous n'avons pas affaire à un leader efficace. Mais si sa préoccupation initiale est d'abord de pouvoir insuffler un élan positif, je peux vous garantir que dans votre engagement se trouvera votre provision. C'est ainsi que quelqu'un dira que la provision, eh bien, s'attache à la vision. Développez une vision et vous aurez la provision. Je dirais que pour cette personne, le leader, c'est quelqu'un qui est créatif, innovant, c'est quelqu'un qui est en mesure de se retrouver dans un contexte où quelque chose n'existait pas avant son arrivée, et faire en sorte qu'effectivement, il commence une nouvelle activité, peut-être auquel certaines personnes n'avaient jamais pensé auparavant.
Pasteur Camille,
cette activité, eh bien, il y a un profit qui pourrait éventuellement lui être avantageux.
Pasteur Camille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes conférencier, coach en leadership et développement personnel, responsable de l'ONG Un Jour Nouveau, basé à Goma, et numéro par lesquels on peut vous joindre peut-être pour continuer la discussion après cette émission.
Certainement, mon numéro est le 243. 997 11 98 20. Je reprends, 243 99 711 98 20.
Merci pasteur Camille Toto et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.